le magazine des Nations Unies.
Présentation du 16e rapport du secrétaire général de l'ONU sur la situation en Afrique centrale au Conseil de sécurité. Les principaux faits et tendances de ce rapport, c'est dans cette édition. Des crimes oubliés ou négligés dans le monde, le Conseil norvégien pour les réfugiés publie un rapport et accable une dizaine de pays, le Cameroun est en tête. Enfin, partenaire du programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, l'ONG CAFCO a publié son rapport sur la médiation électorale des scrutins du 30 décembre 2018 et du 31 mars 2019. Dans ce rapport, CAFCO recommande notamment aux partenaires techniques et financiers d'appuyer une étude pour identifier les motivations profondes des violences subies par les femmes dans certaines provinces lors de ces scrutins. Les détails de ces rapports dans quelques instants.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de magazine des Nations Unies. Le 16e rapport du secrétaire général de l'ONU sur la situation en Afrique centrale et les activités de l'UNOCA a été présenté ce mardi 4 juin 2019 au Conseil de sécurité par son représentant spécial pour l'Afrique centrale, M. François Lounsenifal. Ce document rend compte des principaux faits ainsi que des grandes tendances observées dans la sous-région, notamment sur les plans politiques et sécuritaires. Les principaux éléments de ce rapport dans ce condensé de Jean-Pierre Elali Coco.
Ce rapport couvre la période allant du 30 novembre 2018 au 15 mai 2019. Ainsi, sur le plan politique, l'on note la campagne menée par les autorités angolaises contre la corruption et l'immigration clandestine, la publication d'un nouveau gouvernement au Cameroun comprenant 11 femmes, le harcèlement des partis d'opposition au Burundi et la relance du processus de paix en République centrafricaine pour ne citer que ce fait. Les attaques perpétrées par Boko Haram dans le bassin du lac Tchad et celles de la LRA en RDC, notamment dans le Bas-Eoué, les actes de piraterie maritime dans le golfe de Guinée et les braconnages sont les principaux faits observés sur le plan sécuritaire. La situation socio-économique et financière demeure fragile et difficile dans la sous-région, note encore le rapport avant de rappeler, en ce qui concerne les droits de l'homme, que les mesures de lutte contre la corruption adoptées en Angola ont causé le départ de plus de 400 000 personnes vers la République démocratique du Congo. Enfin, le rapport propose des activités du Bureau des représentations de l'ONU en Afrique centrale, ONUCA, se résumant sur la trilogie bons offices, diplomatie, préventive et médiation. Il se termine par des recommandations.
L'humanitaire à présent, le Conseil norvégien pour les réfugiés vient de publier un rapport annuel sur les crises les plus négligées au monde. Ces crises sont notamment dues aux conflits qui engendrent des déplacements des milliers de personnes. Parmi les 10 pays les plus touchés au monde par ce phénomène, le Cameroun vient en tête, suivi de la République démocratique du Congo et de la République centrafricaine. D'autres détails avec encore Jean-Pierre Elali Coco.
Selon le Conseil norvégien pour les réfugiés, la communauté internationale reste insensible pendant que des pires crises se commettent au Cameroun. Tueries brutales, villages incendiés et déplacements massifs des populations. Le conflit est de loin la cause du déracinement d'un demi-million de personnes au sud-ouest et au nord-ouest de ce pays de l'Afrique centrale, souligne encore le rapport. Des milliers de villages sont détruits, des hôpitaux attaqués et au moins 780 000 enfants ont vu leurs écoles fermées et des milliers de personnes réfugiées dans la brousse sont privées de toute aide humanitaire. Ce rapport annuel est basé sur trois critères, à savoir le manque de fonds nécessaires, le manque d'attention des médias et la négligence des dirigeants politiques. Le Cameroun est le premier pays concerné par cette situation, il est suivi de la République démocratique du Congo et de la République centrafricaine, deux autres pays où les crises sont oubliées et où il manque de fonds pour une assistance humanitaire adéquate. Cependant, chaque jour, des millions de personnes déplacées sont négligées dans le monde, déplore Jean Egeland, secrétaire général de cette ONG norvégienne. Notons que ce rapport a analysé 36 crises au total et plus de 200 000 personnes déplacées en 2018.
Le Conseil national des églises communautaire catholique, orthodoxe et copte appellent à l'unité des confessions religieuses et associations de la société civile. C'est lors de la journée des réflexions organisée jeudi dernier en collaboration avec le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Cette journée avait pour thème la nécessité de la redynamisation de la société civile pour un cadre fédérateur incluant l'unité dans la diversité. Le Conseil propose en même temps que les institutions d'appui à la démocratie, notamment la CENI, soient uniquement animées par les acteurs de la société civile et non par des politiques. On écoute un extrait de la déclaration lue par l'évêque Jean-Claude Nguindola, secrétaire général du Conseil. Il est au micro de Jean-Pierre Elali Koko.
Voici ce qui ressort dans cette journée comme recommandation. 1. L'unité de la société civile doit se réaliser dans l'esprit d'humilité. Nous devons nous accepter les uns les autres pour l'intérêt du peuple congolais. Malgré le fait que les autres confessions religieuses et leaders de la société civile avaient commis au détriment des autres. Nous demandons au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qu'il embauche chef de l'État, de penser à créer un ministère de lutte contre la corruption pour finir au désastre fléau qui est dans notre pays. 3. La démocratie et l'état de droit doivent être respectés par le changement des lois et surtout la loi organique de la CENI. Toutes les institutions d'appui à la démocratie doivent être gérées que par les associations de la société civile et confessions religieuses sans le politique. Celui qui doit remplacer Corneille Nanga ne doit pas venir de la société civile de CASH ni de FCC, mais de l'unité de tous les leaders de la société civile et des confessions religieuses à consensus.
Autre nouvelle de la semaine, je l'ai dit dans le sommaire, la mission des médiations et d'alerte précoce déployée par le cadre permanent de concertation de la femme congolaise, CAFCO, a identifié près de 900 conflits lors des scrutins du 30 décembre 2018 et du 31 mars 2019. Ce fait et d'autres sont contenus dans un rapport que CAFCO, partenaire du PNUD, a présenté jeudi le 6 juin dernier à Kinshasa. Plus de précisions avec Honoré Missenga Kalala.
360 médiateurs de CAFCO, parmi lesquels 293 femmes, ont été déployées à Kinshasa, Matadi, Kikwite, dans l'ouest du pays, Kananga et Mbujimayi au centre, Lubumbashi, Kolwezi au sud-est, ainsi qu'à Kisangani, Goma, Beni et Butembo dans l'est. Sur 858 conflits monitorés, 813, soit 94%, ont été directement gérés et réglés par les médiateurs de CAFCO. Parmi les causes des conflits, le rapport cite la non-maîtrise de la procédure de vote, l'amateurisme de certains membres des bureaux de vote, la délocalisation, la suppression ou la fusion de certains bureaux de vote, ainsi que les tentatives d'achat de vote, d'où ces recommandations de Mme Rose Mutombo, présidente de CAFCO.
Au pouvoir public, veillez à la sécurité du processus électoral par une meilleure formation des agents affectés à sa sécurisation. À la CENI, d'intégrer la médiation électorale comme une partie prenante au processus électoral. Aux partis politiques, de former suffisamment les militants ainsi que leurs mandataires. Aux missions d'observation électorale, de former suffisamment les observatrices et observateurs sur leur mission et responsabilité.
Le rapport de CAFCO énumère aussi plusieurs formes de violences subies par les femmes lors de ces scrutins comme cause des conflits observés. Injures, voies de fait, actes de corruption, propos discriminatoires. Là aussi, une recommandation particulière de la présidente de CAFCO.
Aux partenaires techniques et financiers, d'appuyer une étude pour identifier les motivations profondes des violences subies par les femmes dans les villes les plus touchées par celles-ci.
Le vœu de CAFCO est de voir les résultats de son rapport être exploités dans les stratégies d'éducation civique et électorale que la CENI et les acteurs de la société civile pourraient mettre en œuvre.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
La corruption gangrène toutes les couches sociales de la RDC, c'est connu. Mais ce fléau fait perdre au pays 15 à 20 millions de dollars américains chaque année. Affirmation du professeur Saint-Augustin Mwendambali, directeur général de l'Observatoire des surveillances de la corruption et de l'éthique professionnelle, lors d'une intervention à une journée des réflexions organisée par le Conseil des Églises communautaires catholiques, orthodoxes et coptes et des associations de la société civile en collaboration avec le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Pour cet intellectuel, la seule volonté politique ne suffit pas, il faut une loi anticorruption pour lutter efficacement contre ce fléau en RDC. Le professeur Mwendambali répond aux questions de Jean-Pierre Elali Koko.
Professeur Mwendambali, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous venez de parler de la corruption dans cette rencontre. La corruption est une gangrène, on peut le dire, elle est généralisée dans notre pays. Par où faut-il commencer, professeur, pour endiguer ce fléau?
Merci beaucoup, tel que vous l'avez dit, dans votre classement en aparté, je crois qu'il faut commencer par doter le pays d'une loi anticorruption, d'une loi spéciale qui puisse intégrer tous les aspects de la lutte contre la corruption. Sans cette loi, même le discours du président Tshisekedi sera voué à l'échec. La loi constitue le cadre juridique, le cadre qui nous trace ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Le président, quand il dit « va lutter contre la corruption », il ne vous dit pas quel type de corruption il s'agit. Il ne vous dit pas quand est-ce qu'il faut frapper. Peut-être peut y avoir tout un cheminement, un processus, d'abord l'avertissement. Non, c'est la loi qui va déterminer les circonstances dans lesquelles l'infraction, la corruption peut frapper quelqu'un.
Mais vous avez mis aussi l'accent sur la volonté politique, professeur.
Je vais y arriver. Cette loi est capitale, d'autant plus qu'on voit qu'il y a déjà la volonté politique du président de la République. La volonté politique est là, il a commencé par marteler. Il a parlé avec dévotion, avec acharnement, avec obsession, je dirais, de lutter contre la corruption. Mais voilà. Il faut passer par des actes concrets, avec un chronogramme à l'appui, avec les mesures d'accompagnement, puisque la volonté du président n'est plus à démontrer. Maintenant, dotons le pays d'une loi anticorruption. À côté de la loi anticorruption, il faudra maintenant, on déclenche au même moment, une campagne de sensibilisation à grande échelle nationale sur la nécessité de réarmer le moral des Congolais. Le moral des Congolais est affaibli, s'est fait avaler par la corruption. Ils ne pensent qu'en termes de corruption, ils ne dorment qu'en termes de corruption, ils ne marchent que sous le modèle de corruption. Alors il faut effacer ces temps médiocres qui ne permet pas à notre pays de pouvoir retrouver son développement.
Oui.
Là, c'est la deuxième étape. La volonté est déjà là, la première. Maintenant, la loi. Et puis, ensuite, le lancement, la campagne, pour sensibiliser, pour que les choses aillent bien comme sur la roulette.
Une telle campagne peut durer combien de temps, professeur?
Je crois qu'une campagne raisonnable de réarmement moral peut aller d'une année à 2 ans. Une année déjà, ça va. Si toutes les forces vives de la République sont concernées, les églises, les corporations, les ONG, le monde des affaires, les institutions publiques de l'État, la société civile, si nous y allons tous à l'unisson, le même discours est auprès de nos enfants, car nos enfants pâtissent beaucoup, commencer par la famille, aller dans les écoles, et des écoles dans la société, je crois que l'État peut se retrouver avec des citoyens dignes de diriger ce pays.
Oui, professeur, vous avez aussi préconisé une belle initiative, celle de créer au sein du gouvernement un ministère de lutte contre la corruption. Où est-ce que nous en sommes avec cette initiative? Vous en avez parlé au chef de l'État?
Oui, nous avions fait notre rapport à qui de droit, à l'autorité suprême de la nation. Il lui appartient maintenant d'examiner des éventualités pour mettre cette loi en marche. Mais sinon, c'est une bonne idée de créer un ministère de l'administration publique, bonne gouvernance et intégrité. Voilà un ministère qui va surveiller. C'est pas seulement la bonne gouvernance, c'est tout cela. Il y a la lutte contre la corruption, la lutte contre la pauvreté, la lutte contre les violences. Voilà la bonne gouvernance.
Vous pouvez en être les ministres?
Non, je n'ai jamais rêvé de devenir ministre. J'aimerais que les autres expérimentent ça. Et moi, je serai à leur côté comme leur conseiller.
En tout cas, professeur, je vous remercie.
Merci beaucoup, Radio Okapi, l'église au milieu du village.
$502 millions US, c'est le montant que la Banque mondiale va mobiliser en faveur d'un projet multisectoriel de nutrition et de santé en République démocratique du Congo. Le Conseil des administrateurs de cette institution monétaire internationale a approuvé ce financement fin mai dernier. L'enveloppe comprend en partie un crédit de $246 millions. Le reste est constitué d'un don de l'Association internationale de développement à hauteur également de $246 millions, ainsi que d'un autre don de $10 millions du mécanisme de financement mondial. Le Kwilu, le Kasaï central, le Kasaï et le Sud Kivu sont les provinces bénéficiaires de ce projet qui vise à réduire la prévalence des retards de croissance, fournir des services communautaires et primaires des soins de santé et de nutrition et assurer des services de planification. Honor Kivu, 72 ménages réhabilités dans leurs droits fonciers grâce à la facilitation de l'ONU Habitat. Selon un communiqué de cette agence onusienne daté de Gatera et Kifigari le 5 juin dernier, le ministre provincial en charge des affaires foncières, Jean-Dédieu Guiza, a remis des titres fonciers à ces ménages dont les habitations s'étaient retrouvées dans l'enceinte du camp militaire des Romangabo. Cela à la suite de la médiation menée par le programme des Nations Unies pour les établissements humains ONU Habitat. Cette médiation a permis aux militaires stationnés au centre de brassage et de recyclage Rumangabo et les populations environnantes de fumer le calumet de la paix après plus d'une décennie de conflits fonciers. Enfin, restons dans cette région en allant à Uvira, au sud Kivu, où les représentants des communautés de Bafuliru et Baninda ont rencontré jeudi le 6 juin le leadership local de la MONUSCO dans le cadre d'un projet de dialogue pour la stabilisation de la région. Une rencontre initiée par l'ONG Alert International. Au cours de cette réunion, les deux communautés s'adressant à la MONUSCO ont conditionné leur participation au dialogue intercommunautaire par la libération des 6 éléments FRDC issus de leur communauté qui seraient détenus à la prison centrale de Bukavu.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Notre invité ce dimanche, Gianfranco Rotigliano, est le directeur pays sortant de l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance. Gianfranco Rotigliano était en visite de travail des deux jours cette semaine à Kananga au Kasaï central. Objectif de sa mission, se rendre compte du programme de réinsertion sociale et de scolarisation des enfants sortis des milices dans l'espace Kasaï que mène son agence, avec notamment la construction en cours des 500 classes détruites lors de la crise de Kamuina-Nsapu. Notre invité s'entretient avec Blaise Ndongala Mayanda. Suivez.
Monsieur Gianfranco, bonjour.
Bonjour.
Vous venez de boucler une mission de deux jours à Kananga. Quelle a été la raison principale de votre passage dans cette région?
La raison est duple. C'est-à-dire, d'un côté, ça fait longtemps que je ne venais plus. Ça fait presque 5 mois ou 6 mois que je ne viens plus au Kasaï à cause du problème qu'on a dans l'est du pays avec Ebola. Donc, c'était le temps de revenir et voir comment les choses se déroulent ici. Ça, c'est la première. La deuxième aussi, que j'accompagne avec moi mon successeur qui est venu pour une prise de contact avec le bureau et les autorités locales.
L'UNICEF s'occupe en priorité des enfants, mais qu'est-ce qu'il préconise pour améliorer les conditions de vie des populations après la crise qu'a connue la région?
L'UNICEF, comme vous savez, s'occupe des enfants au sens large et des familles. Donc on a les programmes et un programme qui s'articule sur plusieurs éléments, la protection de l'enfant, l'accès à l'eau et à l'hygiène, la scolarisation, l'éducation et aussi évidemment il y a toute une partie qui concerne la création d'un environnement favorable pour les enfants.
Les enfants ont été le plus affectés lors de la crise qu'a connue la région, vous le savez bien. Que préconise l'UNICEF pour assurer leur protection et leur scolarisation?
Il y a des choses importantes. D'un côté, on s'occupe des enfants qui sont issus des groupes armés, des forces armées, des milices, comme on veut dire. Donc des enfants qui avaient pris une direction dans la vie qui était très dangereuse. Et donc pour ces enfants-là, on cherche de les identifier, de les séparer des milices ou des groupes armés et de les réinsérer dans la société, de les remettre avec leur famille, de les remettre à l'école, de leur donner une possibilité de reprendre une vie normale et de devenir des citoyens de demain. Après ça, évidemment, il y a le problème des écoles. Vous savez bien que pendant les conflits, plus de 100 écoles ont été brûlées et détruites. Donc, on est en ce moment dans un programme de reconstruction de ces écoles, mais en même temps, on a fait des distributions de fournitures scolaires, et par là, je veux dire, les kits pour les enfants, les kits pour les professeurs et les écoles. Et maintenant, comme je disais, on est en train de construire 500 salles de classe. Ça suffira pas sûrement. Il faudra faire davantage parce que pour le moment, ce sont les fonds que nous avons, que nous engageons dans ces programmes. Mais si les donateurs vont nous appuyer, on continuera à construire davantage de salles de classe, améliorer aussi la gestion des écoles et les curriculums pour que les enfants qui vont à l'école sortent avec des connaissances renforcées.
À l'occasion de votre visite dans la région, avez-vous un message spécifique à la population d'abord et puis aux autorités provinciales?
Écoutez, moi je suis de l'UNICEF, donc le message plus important que je peux donner, c'est la paix, vivre en paix, faire tout ce qui est possible pour que ces populations vivent en paix. mettre en place des mécanismes de résolution de conflits, de réhabilitation des gens qui ont été pris dans un engrenage de violence, de haine, et de ramener tout ça à des conditions de vie paisibles entre eux. Nous, de notre côté, on cherchera de les aider avec tout ce qu'on peut, avec les services de base, l'école, l'hygiène et l'eau potable, la santé, l'éducation, la vaccination, tout ce qu'on peut, mais le message est il faut vivre en paix.
Monsieur Jean Franco, Radio Capi vous dit merci.
Merci à vous.
Rendons-nous à Uvira, nous sommes au sud Kivu, où les couches sociales ont été sensibilisées sur le mandat et le rôle de la MONUSCO dans les hostilités intercommunautaires. C'était lundi dernier et le sujet a regroupé près de 200 acteurs locaux autour du maire de la ville et du chef du sous-bureau de la mission onusienne. Et quelques-uns d'entre eux se sont exprimés au micro de Fiston Goma. Suivez.
Au niveau de la base, nous pensons vulgariser l'information que le chef de la MONUSCO nous a donnée pour que tout le monde puisse être au même niveau d'information et qu'il sache que la MONUSCO a agi par impartialité dans les actions de Minembwe.
Nous sommes censés d'aller maison par maison pour sensibiliser la population en leur disant que la MONUSCO n'a pas la même mise sur ce qui se passe à Minembwe. La MONUSCO a fait son travail par rapport à son mandat. Il s'est interposé pour mettre fin aux hostilités qui se passent au niveau des Minembwe entre les communautés qui sont toujours en guerre ou en conflit.
Qu'est-ce que je veux faire? D'abord, je vais sensibiliser mes amis, jeunes garçons que nous sommes, les engager à avoir des paroles de paix, des paroles d'apaisement. Tous ceux-là qui font combat dans Minembwe, ce sont nos frères. Nous allons les reprocher et débattre sur un sujet de paix et d'amour et pourquoi pas de courtoisie, des messages qui vont porter sur la pacification de Minembwe. J'estime personnellement que cela pourra quand même aider à pacifier Minembwe et les autres entités environnantes.
Moi, en tant que femme, je vais sensibiliser mes amis femmes afin de lutter contre cette situation qui est en train de dégénérer dans le haut plateau de Minembwe.
Magazine des Nations Unies, question aux Nations Unies.
Le commandant de la force de la MONUSCO était cette semaine en mission de travail à Kananga, au Kasaï central. Suivez la question qui lui a été posée sur l'objet de sa visite ainsi que sa réponse.
Général Elias,
vous avez donc passé deux jours dans les provinces du Kasaï et du Kasaï central. Quelles sont les raisons de votre visite? Le but de notre visite est tout d'abord de rencontrer les autorités locales et de les féliciter pour leur récente élection. C'est pour rencontrer les dirigeants des FRDC, les dirigeants de la PNC et nous assurer qu'ils comprennent le rôle de la MONUSCO dans la région et qu'ils comprennent que la MONUSCO est ici pour appuyer les institutions nationales et protéger la population civile dans cette partie du pays. C'est un. Et le deuxième objectif est de rendre visite à mes propres troupes qui sont parfois déployées dans des zones éloignées, dans des conditions très difficiles, comme vous avez pu le voir, et de les encourager à faire ce qu'elles doivent faire de la manière la plus efficace qui soit.
The most effective way.
Magazine des Nations Unies, portrait du jour.
Je m'appelle Daniela Talitza, je suis née sous le soleil de la ville de Rome, en Italie. J'ai commencé ma vie de pèlerinage partout dans le monde très jeune. J'ai commencé comme volontaire dans des ONG chez mon pays et j'ai suivi toujours cet intérêt à me mettre au service des autres, même après le mariage. C'est-à-dire, ce n'est pas facile de concilier une vie à l'étranger, de travail, parfois un peu aussi difficile avec une vie de famille. J'ai poursuivi mes études initialement en Italie et puis je les ai continuées à l'étranger. J'ai fait des études humanitaires et des études de sciences politiques. J'ai étudié des langues aussi parce que je pensais que de toute manière l'intérêt à travailler à l'étranger était lié à la possibilité de pouvoir communiquer avec les gens dans leur langue. Donc j'essayais d'apprendre toutes les langues des pays où je travaillais. C'est pas facile d'apprendre des langues, surtout si c'est des langues très différentes à celles qu'on connaît déjà. Mais les gens apprécient beaucoup.
c'est très facile de rentrer en communication. Et c'est ce que je suis en train d'essayer de faire ici à Kananga aussi, au Kasaï Central, où la plupart des gens parlent Chiluba, et qui est une langue très belle et très difficile. C'est très apprécié de leur part de voir que quelqu'un essaye de communiquer, même en faisant des fautes. Je travaille dans le bureau des affaires politiques. J'ai commencé dans la mission au sein de l'équipe électorale, et puis j'ai été déplacée dans le Kasaï Central pour suivre les changements politiques en vue de la mise en œuvre de nouvelles élections. J'aime dire que chaque jour, quand j'arrive au bureau, c'est la surprise. On ne sait jamais de quoi on va devoir s'occuper au-delà de ce qu'on a planifié. C'est très important parce que garder la flexibilité dans un endroit qui est en train de reconstruire sa vie normale et de redévelopper des équilibres, soit politiques, soit des vies civiques, c'est important de garder la possibilité de s'adapter aux nécessités quotidiennes. Mon travail se centre plutôt sur l'interaction avec tous les partis politiques, les groupes et les mouvements citoyens, bien entendu les autorités gouvernementales et territoriales, la société civile, et je travaille beaucoup avec les forces militaires. Ça aussi c'est très important parce que savoir se mettre en contact, se mettre en relation avec des différentes cultures passe par ce que les différentes cultures ont comme leur structure sociale. J'essaie de garder mon esprit volontaire dans tout ce que je fais, la disponibilité à communiquer avec les autres, la disponibilité à apprendre toujours où je suis et la capacité de lire la réalité, de laisser que la réalité vienne à moi et me parle et me laisse comprendre, me permette de comprendre ce que je dois faire et comment je vais être le plus utile possible. Avant d'arriver à la MONUSCO, ma vie professionnelle a été caractérisée presque toujours par le volontariat. J'ai commencé comme volontaire, j'ai aussi travaillé comme professionnelle dans des différents endroits, y compris dans les Nations Unies, mais j'ai toujours eu la tendance à retourner à me mettre au service comme volontaire. C'est le cadre qui me permet d'être plus fonctionnelle. Temps libre, bon, moi, j'en ai pas beaucoup en fait. J'aime bien mon travail et j'aime bien considérer que je m'amuse au travail aussi, je prends mon temps au travail aussi, même lorsque, dans la plupart des cas, c'est très hectique et tout le temps en courant. Mais j'aime bien, je sais pas, préparer mon thé, par exemple, le partager avec quelqu'un, perdre 2 minutes de plus pour lire davantage quelque chose au-delà des documents que je suis en train de lire, écouter de la musique même si je suis en train de travailler. J'aime bien la musique locale, c'est-à-dire j'aime bien découvrir les musiques. Ça répond un peu aussi à mon intérêt sur les langues. Et, en fait, j'aime toutes les musiques, sauf la musique hard. Mais comme j'aime bien voyager, alors là, le voyage aussi, ça se réconcilie beaucoup avec ce travail. Vous savez, la RDC est mon 77e pays. Mon travail a pu se réconcilier beaucoup avec ma passion de voyager. J'adore manger, j'adore cuisiner, j'adore partager ce que je cuisine avec les amis, avec les gens qui sont capables de l'apprécier. Bon, l'avenir, concept général, c'est continuer mon travail. Voilà, toujours dans le domaine de la coopération internationale et de la facilitation de la paix. Oui, un travail politique, un travail social, un travail d'interculture, un travail de diplomatie, de relations. Essayer de trouver la manière d'aider les autorités qui ont à charge un territoire, une population, une communauté, à se mettre en condition de pouvoir s'en occuper. C'est ça qui va engendrer une paix durable. Grazie Radio Capi, siete grandi.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Capi.
Au nombre des rendez-vous pour ce mois de juin, sachez que le 12 juin sera la journée mondiale contre le travail des enfants, le 14 juin, journée mondiale du don de sang, 15 juin, journée mondiale contre la faim, et nous allons terminer avec le 16 juin où on va célébrer la journée de l'enfant africain. C'en est fini pour l'émission de ce dimanche, réalisée et coordonnée par Jean-Pierre Elali Koko sous la supervision de Martin Seboujangwe. Honoré Misenga était au reportage, moi, Billy Van Lutumba, je l'ai présenté avec l'assistance technique de Bob Landou. Toute l'équipe de Magazine UN vous remercie et vous donne rendez-vous dimanche prochain. Excellente condition d'écoute des programmes de Radio Okapi, la fréquence de la paix.